Et bienvenue à La Grange, saison 2, épisode 1. L'émission fait un peu peau neuve à la manière de...
De moi ? J'ai changé de comportement.
Voilà, exactement. Pour une fois, ouais. Eric a la gueule de bois, donc c'est vraiment la première fois qu'on enregistre dans ces conditions. Non, plus sérieusement, je trouve qu'on s'est un peu éloigné du concept de base. Il était temps de passer...
Oui, c'est vrai, plus du tout de biture.
En tout cas, moins de conneries, plus de... Plus on est plus proche de, je suis plus proche de la méthode scientifique, de l'esprit critique, des sources en description. Donc
c'est ça. D'ailleurs pour ça que vous nous écoutez, hein, c'est pour apprendre des trucs, pas du tout pour rigoler.
Ça fait partie de la culture.
Pour apprendre des trucs.
Donc on tourne la page, une nouvelle saison arrive et comme à chaque fois, nouvelle saison, nouveau jingle.
Vas-y, je t'en prie. La Grange Podcast.
Esprit critique.
Esprit scénique.
Et donc, premier édito pour cette deuxième saison, on va parler épistémologie et métacognition. Donc l'épistémologie, c'est l'étude de la connaissance, et parfois de façon un peu plus restreinte, de la connaissance scientifique. Et la métacognition, c'est tout simplement la réflexion sur le fait de réfléchir ou par quel processus on pense ce que l'on pense. Donc ça peut paraître... Oui, Eric ?
Non, j'allais dire... ah oui, c'est vraiment de la nouvelle saison, là.
Tout à fait.
On est super sérieux, ok.
Donc c'est des sujets qui peuvent paraître aussi chiants qu'un bol de pruneau au premier abord, mais quand on y réfléchit, c'est des sujets qui sont, c'est les sujets les plus importants quasiment de votre vie en fait. Comment savoir ce que vous pensez est vrai? Si par exemple un type dans la rue me dit que les Illuminati contrôlent le monde, est-ce que je dois le croire sur parole? Ou bien me faut-il des preuves? Dans ce cas, quel type de preuves? Est-ce que si un professeur de cancérologie par exemple accusé de charlatanisme par l'ordre des médecins me dit qu'il ne faut pas vacciner mes enfants, est-ce que, par exemple, je dois l'écouter? C'est un sujet sur lequel j'invite chacun à réfléchir.
Est-ce que si Eric me dit qu'il peut me faire passer aux vieilles charrues, est-ce que je dois l'écouter?
Exactement. Comment vous construisez votre connaissance? De quelles preuves avez-vous besoin pour considérer qu'une information est vraie? Et quelles sont les conséquences si vous vous trompez? Voilà. Et toi, Eric, est-ce que tu sais à peu près, est-ce que tu as mis le doigt sur la façon dont tu construis ta connaissance?
J'utilise un pendule en fait, et quand il tourne vers la droite, je considère que c'est vrai. Donc je pose des questions au pendule, si je lui dis est-ce que la Terre est plate, il va tourner vers la gauche, donc je considère que la Terre n'est pas plate.
Voilà, d'accord, c'est à peu près ça comme pour ça. Chaque question.
Pour à peu près tout, ouais.
Mais si on te pose une question sur un sujet sur lequel tu n'as pas encore...
Eh ben je demande au pendule. Hein.
D'accord. Un processus qui est quand même long et fastidieux et qui...
C'est assez rapide. Bon, il faut toujours avoir un pendule sur soi, par contre.
C'est clair.
Mais c'est assez rapide. Et du coup, ça te permet de ne pas te tromper. Comme ça, au moins, tu as une connaissance claire, nette. Oui, non, pile, face. C'est assez rapide.
Et si c'est un truc graduel? Ou si c'est une réponse chiffrée?
Excellente question. J'ai encore jamais eu le cas, donc...
D'accord. Donc, à partir de quel âge tu peux commencer à draguer les filles?
Je demande au pendule.
Et il dit oui, non.
Et il dit oui, non.
D'accord. Okay. Voilà. Une bonne...
Oui, par exemple, là, tu vois, je fais fonctionner mon pendule, mais oui, voilà.
D'accord. Est-ce que tu accordes une place particulière à l'empirisme, à un moment,
alors, c'était le cas? Alors, est-ce que vous pouvez arrêter d'utiliser des mots de plus de 3 syllabes, s'il vous plaît?
Est-ce que ton expert... non, c'est compliqué. C'est compliqué.
L'empirisme, c'est-à-dire...
Bah, à un moment, tu considérais que ce que tu vivais, c'était une bonne réflexion, une bonne façon de construire la façon... De
l'expérience, quoi.
Voilà.
Ouais, je pense que... Il y avait un sketch de Louis C.K. où il expliquait que les vieux, il faut toujours les écouter, parce que, mine de rien, ils ont toujours plus d'expérience que toi. Donc même s'ils ont faux, même ils ont souvent faux d'ailleurs, enfin, les gens ont souvent faux en général, même s'ils ont faux, ils ont construit leur raisonnement sur plus d'expérience que toi t'en as eu. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi ils ont faux.
Gardez bien en tête que Louis C.K. c'est un comique. Hein. Ça c'est drôle.
Et donc ouais, il y a ça, il y a toujours cette notion d'expérience. Je prends toujours en compte que même si quelqu'un a un raisonnement faux, il est basé sur de l'expérience. Donc ça veut dire qu'une succession de choses ont fait que ça s'est construit de cette façon-là.
Mais par exemple, on peut citer des...
Oui, vas-y.
Un truc qui m'avait marqué, c'est tu disais, moi je pense que la
Lune. Ah, on peut s'autociter ?
Voilà.
Ah, c'est vachement
bien.
Et
moi je pense que la Lune a une influence sur le sommeil. La preuve, quand il y a la lune, je dors moins bien, tu vois, quand il y a la pleine lune.
C'est pas moi qui ai dit ça.
Si.
Je vous...
Diffamation. Non, mais tu vois, c'est... après, c'était il y a prescription maintenant, mais... tu vois,
t'étais teubé dans la saison 1, Eric.
Voilà. moi, c'est pas comme ça que je construis ma connaissance, mais après, j'ai pas de... L'épistémologie, justement, t'étudies la façon dont... Moi, je pense que, à l'heure actuelle, la meilleure façon de construire la connaissance factuelle, en tout cas, c'est la méthode critique qui s'appuie sur la méthode scientifique.
Ouais, mais je suis pas d'accord avec ça.
Ah oui, c'est tout à ton honneur de défendre autrement.
Non, non, je pense qu'il y a des trucs qu'on comprend pas, et que même la science ou même les raisonnements peuvent pas expliquer.
Alors, je parle d'opinion... Donc, d'opinion factuelle et pas d'opinion... par exemple, je trouve que la méthode scientifique s'applique hyper mal pour déterminer si t'aimes bien le dernier album de Jul ou si, au contraire, t'aimes pas te faire chier dans les oreilles, tu vois. C'est un exemple. Hein.
C'est un peu biaisé comme exemple.
Et ben, en parlant de biais, je vais lancer ma première rubrique. Un des trucs les plus fous dans notre façon de réfléchir, c'est le fait qu'on tombe tous systématiquement dans des pièges appelés les biais cognitifs. Alors à la base, j'avais préparé une longue rubrique très très chiante sur les fondements des méthodes scientifiques. Ça parlait Thomas Kuhn et Karl Popper, mais plus j'avançais dans la rubrique, plus je visualisais Eric en train de faire l'urticaire.
Non mais mec, je parle de Karl Popper.
Ah génial, c'est mon héros. J'ai donc décidé de plutôt parler d'un biais cognitif, ça fait des rubriques intéressantes, et il y a tellement de biais cognitifs qu'on pourra largement faire 20 saisons de Lagrange sans chercher de nouveaux sujets. Donc le biais du jour, c'est l'effet Dunning-Kruger, je sais pas si ça te parle.
Non, du tout.
C'est un biais cognitif qui a été mis en évidence assez récemment, en 99, par du coup David Dunning et Justin Kruger. Grossièrement, c'est le fait que les personnes très peu compétentes dans un domaine particulier ont tendance à surévaluer leurs compétences dans ce domaine.
Ouais.
Quand tu t'intéresses à un domaine, au début, tu glanes des informations et très très vite, tu prends méga trop la confiance, souvent à tort.
Moi, j'allais dire, pour toi, c'est le sexe, mais en fait, t'es un gosse, donc...
ça a été prouvé dans plein de domaines différents. Et c'est, par exemple, en partie par cet effet que Magic Mom 24, après avoir passé 6 heures sur le forum de Doctissimo et sur le site d'Henri Joyeux, pense être compétente en matière de vaccination, voire plus compétente que le Collège des enseignants d'infectiologie, qui recommande, eux, de vacciner, quoi.
C'est quoi son nom,
Magic Mom 24, alors, je sais pas s'il existe... Vraiment, mais tu vois, il y a des gens qui sont prêts à mettre en péril leur santé et la santé de leurs proches parce que ce qu'ils croient avoir acquis comme connaissance,
ouais,
ils pensent que c'est encore plus solide que des tas de gens qui ont passé leur vie à étudier ça, tu vois. C'est assez...
Après, non, mais je comprends que là, sur cet exemple-là, c'est complètement débile.
Non, mais c'est un truc où tout le monde y est
ouais,
soumis, en fait.
Mais après, c'est toujours bien d'avoir un peu de doute, un peu d'esprit critique.
Oui. parle plus tard, justement. Voilà. La fiche de Wikipédia est assez succincte sur l'effet Dunning-Kruger, mais on retrouve facilement l'étude Princeps de 99 sur Google Scholar. Et plus intéressant, j'ai trouvé deux études de 2011 et 2013, justement, entre autres par Dunning et Kruger eux-mêmes, qui reviennent sur leur découverte. Et alors, je ne peux.
Les mecs, bon, on va réétudier ce qu'on a déjà étudié.
Ah, ils pèsent. Ouais. Maintenant, ils ont laissé leur nom dans la postérité. Je ne peux décemment pas conseillé parce que c'est vraiment illégal, mais alors totalement illégal, de passer par Sci-Hub pour télécharger ces études gratuitement parce qu'elles sont payantes, et donc c'est vraiment illégal, faut vraiment vraiment pas le faire. Et donc l'étude de 2011 parle d'un concept que je trouve assez brillant, c'est la méta-ignorance. C'est quand tu sais même pas ce que tu sais pas, c'est quand t'es littéralement trop con pour savoir que t'es con.
Voilà. Tu parles de moi, là?
ça touche, encore une fois, n'importe qui. N'importe quel être humain y est soumis dans différents domaines.
Bah, si, on le sait qu'on est con, non?
Et bah non, justement, l'étude montre...
C'est peut-être le seul truc dont je suis au courant, quoi.
C'est Socrate, Aristote, non?
Non,
Socrate.
Que je suis con, non?
Bref.
Je sais que je... Non, ouais. Je sais que je suis con, ouais, ça doit être Socrate, ouais.
Et c'est assez terrifiant comme biais cognitif, car on y est tous soumis, comme je l'ai dit. Il est absolument impossible d'être un expert en tout. Et par exemple, moi le premier, je suis pas psychologue, et encore moins chercheur en psychologie, et il y a donc une chance que je sois complètement passé à côté de l'effet Dunning-Kruger et que je suis en train de vous raconter complètement n'importe quoi.
C'est ça la saison 2.
Et j'aurais même pas moyen de savoir que je raconte n'importe quoi, parce que je serais en pleine méta-ignorance, je ne sais même pas ce que je sais pas, tu vois. Et bon, un truc qui est quand même rassurant, c'est que leur étude de 2013 conclut, encore une fois, tous les liens sont en description, mais bon, c'est des études payantes et je ne vous invite vraiment pas à les télécharger gratuitement.
Alors, si quelqu'un clique sur le lien et après va télécharger les...
Alors il faut payer, hein, évidemment, il faut payer des sommes folles à Science Direct qui, qui ont le mérite d'avoir ni fait l'étude, ni, ni même publié un papier, papier physique, parce que voilà. Bref, à ce sujet, leur étude de 2013 est plutôt rassurante, puisque la conclusion, c'est que, en gros, plus on devient compétent dans un domaine, mieux on arrive à s'auto-évaluer. Voilà. Donc, c'est pas. L'effet de Dunning-Kruger touche surtout le bas, les gens incompétents, quoi. Et il y a même une petite tendance inverse chez les gens très compétents qui ont une tendance à se sous-évaluer.
Oui, bah ça, c'est toujours. Par exemple, moi, j'ai l'impression qu'on fait un podcast de merde, alors qu'en fait, on est dans les meilleurs.
On
est dans les meilleurs.
Ouais, quasi. En conclusion, faute de mieux, quand on n'est pas compétent dans un domaine, le plus simple, c'est de se référer au consensus scientifique s'il existe. Ça s'applique, je trouve, particulièrement bien dans le domaine de la science. Et parallèlement, s'il y a un sujet qui vous tient vraiment à cœur, c'est important de le creuser à fond, tout en tenant compte au début que vous surestimez probablement
vos connaissances, vos
compétences. Okay.
D'accord. Donc voilà. En fait, il faut partir du postulat de base qu'on est con.
Exactement.
Et qu'on a tout à gagner à partir
soit du postulat tu, soit de base. Soit tu dis, j'ai pas le temps de savoir s'il faut faire telle chose. S'il y a un consensus scientifique, c'est cool, parce que je peux m'y référer. Si on n'a pas, c'est un peu plus coton. Et dans le mieux, c'est de. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas de consensus, c'est de s'abstenir d'émettre un jugement, mais si tu es obligé, vaut mieux creuser si ça te tient à cœur.
Ok. Bon, moi, je vais partir sur la base du consensus scientifique.
D'accord. Est-ce que tu veux qu'on passe à nos exposés respectifs de CE2
avec plaisir.
Nouvelle saison, nouvelle. On va peut-être même mettre un jingle, mais peut-être une petite musique, tu vois, qui va faire un fading. Allez, musique.
Je peux parler là, ça parle sur la.
Ça parle.
Ok. Donc, je t'ai dit ou pas que j'avais dragué en disant que je faisais des podcasts?
Non, pas du
tout. Et la meuf, je l'ai revue dans le bar, elle m'a fait la grange!
Ah, mais si!
Et elle m'a montré, et elle téléchargeait, elle écoutait, elle m'a montré son truc de podcast et elle me dit si tu te reconnais.
Si tu te reconnais, sache que Eric
a une technique. Salut Axel!
Wow, ça devient vite gênant. Même moi, je suis gêné alors que j'ai rien à voir.
Mais non, il n'y a personne qui nous écoute. Même elle, je suis sûr, elle fait semblant.
Du coup, tu vas faire, vas-y, expose.
Alors, aujourd'hui, les enfants, nous allons parler de l'étude scientifique des ovnis. Merci, Adri, pour ton sujet de tout pété. Alors,
tu veux que je laisse un petit fond sonore comme ça?
Non, tu peux couper, là, c'est bien chiant. Alors, cette méthode un peu chiante qui n'utilise ni carte divinatoire, ni pendule, contrairement à moi, s'appelle la zététique. La zététique, c'est l'étude rationnelle de phénomènes qui ne le sont pas. Donc, par exemple, l'homéopathie, les fantômes et ce qui nous intéresse ici, les ovnis. Les objets volants non identifiés, dont l'étude s'appelle l'ufologie. Donc, on sait pas, en français, ça fait pas sens parce que l'acronyme anglais est UFO, Unidentified and Flying Object. J'ai dit ça comme je pouvais, hein. L'ufologie, c'est un terme à ne pas confondre avec urologie, spécialité médicale qui consiste entre autres à remettre ta couille dans le bon sens après une torsion. Le père de la zététique s'appelle Karl Raimund Popper, et non Poppers, comme le souhaite le noter mon correcteur automatique.
Je crois que c'est basé sur des occurrences précédentes.
Il s'oppose à la théorie vérificationniste de la signification, qui signifie qu'une proposition ni fausse ni vraie est dépourvue de signification.
J'ai pas compris, mais
cela que si un énoncé ait un sens, il faut qu'il porte sur un fait empirique observable. Si ce n'est pas vérifiable, alors c'est de la pseudo-science ou de la métaphysique.
Je crois que c'était l'inverse, ça devait être réfutable.
Attends, ça vient.
Ah, pardon.
Ce que propose Poppers,
Popper,
c'est que vous bouchiez une de vos narines et que vous preniez une grande inspiration. J'ai un peu honte de cette vanne.
Okay.
Blague à part, aux critères de vérification comme démarcation entre science et non-science, il préfère le critère de réfutabilité couplé à celui d'approximation.
Excellent.
Pour faire simple, si une théorie s'avère ne pas résister à des tests scientifiques, elle peut être tenue pour... Qu'est-ce que j'ai marqué ? S'avère ne pas résister à des tests scientifiques, elle peut être tenue pour incertaine. A contrario, une théorie correspondant à des tests scientifiques ne saurait être qu'une approximation. La certitude, orthotologie, Ouais, une tautologie. Exemple, tous les célibataires ne sont pas mariés. Voilà. Hors tautologie, la certitude demeure selon cette méthode toujours logiquement hors d'atteinte. Tu es toujours dans l'approximation.
Si j'ai bien compris, pour qu'un truc soit scientifique, tu peux pas prouver qu'il est vrai, tu peux juste échouer à prouver suffisamment de fois qu'il est faux.
Voilà.
Ouais. D'accord.
C'est
J'essaye
ça.
de, pour les auditeurs, j'essaye de.
On va s'arrêter là pour la présentation très succincte de la zététique, pour comprendre comment cette méthode cartésienne s'applique à l'existence ou non des ovnis.
D'accord, très bien.
Alors, pour cette démarche, c'est comme une recette de cuisine. Il nous faut une pincée de fondement logique, 3 cuillères à soupe de méthodologie et à peu près 100 grammes de définition de l'objet d'étude.
D'accord, j'aurais dû dire pan et pas ovni, autant pour moi.
Non, mais c'est pas. On va quand même définir un ovni. Ce qui nous donne le modèle réductionniste composite. Le modèle réductionniste composite. Tu m'as vraiment filé un sujet
Oui, pour rappel, on
de
file chacun les sujets. Ouais, mais attends, attends mon exposé, s'il te plaît.
Nous allons nous régaler, même si ça a l'air immangeable. J'ai marqué ta vie, c'est rigolo. Alors,
C'est pas mal.
de ce modèle, nous allons retirer deux choses. Un principe d'économie d'hypothèse qui consiste en présence d'explications à privilégier celles faisant appel au moins de suppositions.
Oui, un peu comme le rasoir d'Occam.
Oui, c'est ça.
Désolé, excusez-moi d'être insupportable.
Non,
Vas-y,
mais c'est exactement
j'arrête de
ça.
temps.
Non, mais je ne l'ai pas noté, mais oui, c'est exactement ça. On va prendre. Alors, bah, je vais suivre. Mon texte plutôt que de commencer à
Excuse-moi,
expliquer à
pardon.
côté. Alors, donc, je disais, on prend celle qui fait le moins appel à des suppositions. Et on va prendre un autre principe qui veut que, à affirmation extraordinaire, on requiert une preuve extraordinaire. Voilà, on a deux principes de base dans ce modèle réductionniste, blablabla, je ne sais plus comment ça s'appelle. Réductionniste composite. Donc, de ce fait découle un principe simple, c'est à celui qui affirme l'existence de quelque chose d'en apporter la preuve.
Ce qui est logique, du coup.
Voilà, mais après, c'est très très logique, hein, la zététique. Hein. On peut donc partir du postulat pas très con que les extraterrestres n'existent pas, jusqu'à preuve du contraire. De fait, avec ce raisonnement, si on oppose la théorie que les ovnis sont le fait d'extraterrestres au fait qu'ils sont le fait de phénomènes terrestres, par le concept d'économie d'hypothèse, donc le fait que les extraterrestres existent demande beaucoup plus d'hypothèses, plus de si, que le fait que ce soit des phénomènes terrestres, on va supprimer la première hypothèse, le fait que les ovnis soient des conséquences extraterrestres. Petit aparté, j'espère que vous faites autant chier à m'écouter que je me suis fait chier à écrire ces lignes.
Non,
Cette théorie est largement validée par la baisse exponentielle de nos auditeurs épisode après
moi,
épisode.
je bois tes paroles. Je
C'est
bois
un
tes
sujet où
paroles
tu connais déjà tout,
et
quoi.
on a explosé le nombre d'auditeurs et ça c'est beau
Oui,
quand
on
même.
est à deux.
On est à 500, enfin on était à 500 au moment, on a au moins atteint les 500 hors iTunes.
Ouais, ça doit être toi qui t'écoute tous les soirs pour t'endormir, je suis sûr. Bon, les pros de la zététique ont défini le terme ovni comme suit. Merci de ne pas vous endormir pendant cette définition. Perception alléguée et rapportée d'un phénomène aérien volant, paraissant voler ou semblant susceptible de le faire, dont la nature n'a pu être définie même vaguement par le témoin ou dont l'identification rapportée va à l'encontre de nos connaissances actuelles.
J'avoue, beaucoup trop compliqué.
Voilà, un peu long et chiant, mais au moins on a défini ce qu'était un ovni. Pour le fait que ce soit des véhicules conduits par des extraterrestres, on se passera donc de cette théorie. Nous n'avons pas de preuve de la moindre bactérie extraterrestre. Donc cette théorie est considérée comme extraordinaire et donc vue plutôt, elle est invalidée par la zététique. C'est ce que j'ai
Alors,
expliqué. Ouf.
invalidé, en tout cas, c'est pas à privilégier du coup.
Voilà. Je sais pas vous, mais ça sent mauvais pour la théorie des petits hommes verts, des licornes et des fantômes, ce truc de zététique. Donc pour avoir des preuves, on va mélanger toutes les données observables suite à l'apparition d'un ovni. Donc il va y avoir l'environnement psychosocial. Où ça s'est passé, les témoignages, le témoin lui-même, si c'est le barge du coin, il va être moins pris en compte que si c'est le notaire, et l'environnement. On passe tout ça à la moulinette de la zététique, et on valide si oui ou non les témoignages sont bons, sont validés. Sans grande surprise, la réponse est non.
Donc à l'heure actuelle, on peut pas.
Non.
D'accord.
Cet exposé était fort long, et je vous prie de m'en excuser, et puis après tout, rien ne vous oblige à utiliser ce genre de raisonnement dans la vie. Croyez aux petits hommes verts ou à l'homéopathie si ça vous fait plaisir. Ça ne fait de mal à personne.
Je suis pas trop d'accord,
Ne vous vaccinez pas. Ne vous vaccinez pas.
Bon, bah, c'est autour de. Bah, en tout cas, c'était cool. C'était cool. C'était je sais chiant. Pas si t'as compris tout ce que t'as écrit.
Non, mais... bien sûr que non.
Mais c'était cool.
Mais je pense que même les gens se sont endormis là. Utilisez ce podcast pour vous endormir. C'est de la ASMR. On est la première série pour une bouche.
Bah, du coup, je vais faire ma propre rubrique. Que je trouve bien plus qualitatif parce que j'ai compris, j'ai compris ce que j'écrivais.
Ça va, j'ai pris trois termes quoi.
Non, en vrai, moi je trouve ça super cool. Hein. La zététique, ça c'est ma passion.
Non, mais mon
c'est ma passion. Ouais.
Non, c'est vrai, c'était pété.
Je pensais que t'allais faire sur le modèle psychosociologique des. Mais,
des ovnis.
Ouais, il y a une thèse de Jean-Michel Abrassard.
Mais, bah vas-y.
Non, j'ai un sujet qui m'a été fourni par Eric. C'est parti pour mon exposé de CE2. Alors, vu qu'Eric est un gros bâtard, il m'a filé un sujet à la fois vaste et très 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 casse-gueule, le féminisme. Et en plus d'être un gros bâtard, c'est un sacré feignant, parce qu'il m'a dit...
Le plus bâtard de nous deux, c'est toi, quand même.
Il m'a dit d'affiner moi-même le sujet, et de préciser moi-même ma rubrique. Voilà. Merci, Eric.
Elle est pas bien, cette saison 2. Tu la sens, la qualité?
Alors, premièrement, c'est quoi le féminisme? Bah, en fait, rien que déjà, là, j'ai eu du mal... J'ai eu du mal parce qu'il y a plein de définitions différentes. Donc, mon petit dictionnaire d'ordinateur donne doctrine qui favorise l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Tu vois, ça semble
bien.
Court, précis. Wikipédia parle. Alors, Wikipédia, c'est chiant. C'est une doctrine qui vise à définir, promouvoir, atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les hommes et les femmes. Ah, le dictionnaire Google dit. Doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme dans la société. Larousse donne encore.
Tu vas faire voilà. Toutes les définitions que t'as trouvées.
Non, je vais juste. Il y en a encore plein d'autres. C'est vrai que j'en ai noté plein d'autres.
Je précise vraiment.
Je vais juste noter celle qui me parle le plus, c'est celle du CNRTL. Tu connais?
Le Conseil national des féministes de la résistance.
Le Centre national des ressources textuelles et lexicales. En fait, c'est une branche du CNRS. Voilà.
Okay. Et ils doivent se faire chier l'hiver, eux.
Ouais, carrément. Et l'été aussi. Mais leur définition, c'est un mouvement social qui a pour objet l'émancipation de la femme, l'extension de ses droits en vue d'égaliser son statut avec celui de l'homme, en particulier dans le domaine juridique, politique, économique. Voilà. Et je trouve ça malin de parler d'égalité de statut plutôt que d'égalité tout court. Et également malin de préciser dans quel domaine ça s'applique parce que il ne peut pas y avoir d'égalité, ouais. Genre physique ou. Attendez avant de nous défoncer.
Non, mais elles seront toujours plus belles que nous.
Ah, allez. Mais quel sexiste. Bon, vous nous connaissez maintenant, nous on est surtout là pour la thune, et c'est donc tout naturellement que j'ai choisi l'angle d'attaque, l'inégalité salariale femmes-hommes. Bon, il existe une foultitude d'études différentes par des organismes plus ou moins sérieux et autant de pourcentages différents qui viennent foutre le bordel comme un vegan au milieu d'une partouze. Je ne ferai pas de. Je n'expliquerai pas cette vanne parce qu'on va avoir des soucis sur Twitter.
On n'est pas sur Twitter.
C'est toi notre community manager.
Donc, c'est horrible Twitter. Je suis allé faire un tour, il n'y a que des gens horribles. Moi je veux pas aller sur Twitter. Hein.
On y est fatalement. Mais c'est vrai que notre community manager n'est pas très actif. Voilà. Pour avoir les idées un peu plus claires, j'ai d'abord cherché sur le site du gouvernement parce que. Voilà, c'est le gouvernement, qui rapporte qu'en France, en moyenne, les femmes sont payées 9% de moins que les hommes à poste et âge égaux. Donc la première chose à faire, c'est évidemment d'analyser la source fournie par le gouvernement. Et malheureusement, il n'y a pas de source.
Oh putain, voilà. Même à la grange, ils mettent des sources en description.
Carton jaune pour le gouvernement. Attention, au bout de deux cartons jaunes, bah, ils continuent à faire ce qu'ils veulent et à nous chier à la gueule comme d'habitude, de toute façon. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On retient qu'en gros, l'écart brut de salaire entre hommes et femmes est de 25%. Et c'est un chiffre qui, heureusement, ne reflète pas du tout la réalité. Pourquoi, Eric?
Parce que,
c'est bâtard ce que j'ai fait.
Hein. Bah, non, parce que les femmes ont des métiers en général qui rapportent beaucoup moins.
Notamment, mais surtout, je crois que le plus gros écart est dû au fait qu'il y a énormément, il y a 3 à 4 fois plus de femmes qui travaillent à temps partiel que d'hommes. Donc forcément, en tout cas, quand tu travailles à temps partiel, t'es en général moins bien payé que... Voilà. Et comme tu disais, effectivement, les femmes sont beaucoup plus nombreuses dans les activités moins rémunératrices. Alors, une des explications serait que les femmes privilégient des emplois plus proches de leur domicile avec des horaires plus flexibles, notamment, en théorie, pour les gamins. C'est ce qu'on retrouve au détriment du salaire. C'est une des explications avancées. Les postes avec les plus grosses amplitudes horaires et les mieux rémunérés sont le plus souvent occupés par des hommes. Et voilà, il faut quand même noter qu'il y a également plus de chômage chez les femmes. Et c'est en corrélation avec,
ça a pas l'air cool d'être une femme, hein,
avec le nombre d'enfants. Il y a aussi une
corrélation avec le nombre d'enfants. Tu veux dire, elles sont plus
plus t'as de femmes, plus t'as de chances.
Plus
t'as d'enfants, plus t'as de chances d'être au chômage. Okay. Bah, ce qui peut, on peut imaginer que c'est pour s'occuper des enfants. Et alors ça, je ne sais pas pourquoi, mais plus t'as d'enfants quand t'es une femme, plus ton salaire diminue, et plus t'as d'enfants quand t'es un homme, plus ton salaire augmente. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quand même pas mal de facteurs de confusion.
T'as fait un gosse pour ça.
Bref, une fois tous les facteurs de confusion éliminés, on retrouverait en moyenne une inégalité de 9% à Poste et AGEGO. En tout cas, c'est ce qui se retrouve sur le site du gouvernement. Alors, j'ai beaucoup cherché et pour savoir sur quoi il s'appuyait. Je pense actuellement pas qu'il se soit basé sur une étude de l'INSEE, mais plutôt sur une étude de la DARES, la Direction de l'Animation de la Recherche des Études et des Statistiques. Donc, c'est une branche en .gouv.fr, donc c'est une branche du gouvernement. Et donc, cette étude, elle daterait de, si c'est bien celle que je pense, j'ai vraiment rien trouvé d'autre.
J'ai un message, Audrey.
Comme source possible.
On vient de perdre notre dernier auditeur.
Et donc, c'est une étude de 2015 qui s'appuie sur des chiffres de 2010. Donc, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que le site du gouvernement a des informations qui datent un petit peu. Donc, j'ai trouvé des informations un peu plus récentes avec une étude internationale de 2019.
Et qu'est-ce que ça dit ?
Qui retrouve qu'en France, à écart à âge et poste égaux, un écart de 3,7%.
D'accord.
De salaire, c'est pas inexpliqué.
C'est pas énorme.
C'est pas énorme, mais ça me ferait quand même bien chier d'être payé 3,7% pour un même travail, tu vois. Et le truc, c'est que la méthode est un peu plus douteuse que dans les études de l'INSEE, mais pour information, ils ont fait la même étude en 2016 et elle s'est retrouvée un chiffre beaucoup plus élevé de 6,3%.
Bon, c'est quoi la conclusion du coup?
Juste avant de conclure, vous le savez, ma seule passion dans la vie sont les méta-analyses. Hein, et j'en ai justement trouvé une qui retrouve, elle sera en description évidemment, quelques résultats très intéressants. Notamment, plus les facteurs de confusion sont pris en compte dans les études, plus les études retrouvent un écart salarial faible. Et donc, c'est-à-dire en gros,
quoi, les facteurs de conclusion?
En gros, mieux tu mènes ton étude, le facteur de confusion, c'est par exemple que les femmes sont plus souvent à temps partiel, qu'elles occupent. Voilà. Plus tu tiens compte de facteurs fins, moins tu retrouves un gros écart. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Et globalement, l'écart de salaire entre hommes et femmes est en train de diminuer. Voilà, deux conclusions très intéressantes de cette méta-analyse. Donc, à l'issue de cette petite recherche bibliographique, mon curseur concernant l'inégalité salariale femmes-hommes est que, numéro 1, il y a bien une inégalité salariale, contrairement à ce qu'on peut retrouver sur certains sites un peu masculiniste. Encore une fois, je mettrai un lien en description parce que c'est bien d'avoir
des. Il y a vraiment des.
Il y a des gens qui disent qu'il n'y a aucun écart, que c'est.
Mais faut être teubé, quoi.
Ils ont des études et j'ai trouvé un site vraiment bien fait avec des études. Bon, le mec, il fait un peu. Je pense qu'il est vraiment en plein biais de confirmation. Tu vois, à mon avis, il va vraiment chercher les études qui.
Ah, qui lui font plaisir, quoi. Comme...
Ouais, voilà, qui confirment ce qu'il pense déjà, mais c'est pas un truc que tu fais consciemment, ça.
Ok. Lui par exemple, il pourrait être le con dont on parlait au début, là. Le mec est convaincu de ce qu'il sait.
Alors non, c'est un autre biais que je parlerai. C'est un biais de confirmation.
Donc il va chercher des choses qui prouvent qu'il a raison.
Voilà, et c'est même plus l'issue, mais écoute, ne spoil pas le prochain épisode. Donc ça, c'est petite 1. Moi, je pense que vraiment, il y a bien une inégalité salariale femme-homme, que petite 2, cette inégalité, elle est quand même probablement surestimée dans les médias et par le gouvernement, ça, je pense. Et numéro 3, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, elle est quand même en train de se réduire. Voilà.
C'est une bonne nouvelle. Mais ça n'empêche pas, en fait, que la vraie inégalité, c'est que les femmes sont plus souvent au chômage et qu'elles travaillent plus à temps partiel, quoi. Qu'elles ont moins de place dans le monde du travail que les hommes. C'est ça, ce qu'on retire de ton étude.
Alors, est-ce que c'est une inégalité ou est-ce que c'est une injustice, Eric ? Bienvenue dans Audition de nuit.
Non, mais injustice, ça dépend d'un biais moral. Là, on a juste... on peut dire que c'est une inégalité.
Ouais, oui.
Après, bien sûr que d'un biais moral, on peut considérer ça comme injuste. Moi, j'adorerais être une femme au foyer, mais
tu sais que tu peux être un homme au foyer, mais qu'il faut une femme.
Ouais.
Enfin, ou un homme. Enfin, il faut être deux, parce que sinon, ou des parents.
Non, mais sinon, ça s'appelle.
Vite ta vie, Eric. Fais-toi plaisir. écoute, un podcast fort.
C'est fini.
Fort acide.
On n'a pas de débat.
Bah, en tout cas, moi, j'ai fait mes rubriques.
Bah ouais, j'ai vu. Moi aussi. Bon, je raconte ma vie ou pas?
Écoute, on va faire On met un petit jingle et s'il y a un bonus.
Il y a un bonus.
Allez, en tout cas, merci d'avoir écouté l'épisode. Bienvenue dans la nouvelle saison. Voilà, beaucoup plus
sourcé. C'est beaucoup plus quali, hein. C'est quali.
Beaucoup plus quali. Ouais. Beaucoup plus quali. Ça sert à Eric à draguer dans les bars. Donc voilà, n'hésitez pas à nous supporter sur iTunes.
Putain. À envoyer. Là, t'es sûr que là, c'est morte. Elle va écouter ça, mec.
Ouais.
Mais quel débile.
Mais quel relou, ce mec.
Mais quel débile.
Mais bienvenue dans mon monde.
Ouf, là, le coxiel, là.
Ça fait quelques jours que je suis amoureux de toi. Et si tu prouves quelque chose pour moi, écoute, rendez-vous au café de la gare, 14h. Ciao.
C'est encore Gaëtan, ce petit obsédé, qui travaille à Auchan, aux rayons surgelés. Il drague tout ce qui passe, raconte des trucs douteux. C'est un gros dégueulasse, il est vraiment foireux. Il vit chez sa mémé, il s'habille chez Dama, avec son petit ciré. Il est vraiment ringard, il joue les Don Juan dans sa super Volvo. Il est vraiment navrant, il n'écoute qu'à l'amour. J'en ai marre de ce état. Rien à faire. Il m'exaspère.
J'ai rencontré Sophie à la foire au fromage. Elle est vraiment jolie, je suis sur un nuage. J'ai eu son numéro par son meilleur copain. C'est un grand rigolo, je crois qu'il m'aime bien. Pareil que je lui plais et qu'elle me trouve beau. Quand je mets mon ciré, je ressemble à Clo-Clo. Elles sont toutes loin de moi, je suis irrésistible. Elles sont toutes en émoi, je suis vraiment terrible. Je l'aurai. Car je lui plais. J'en suis sûr. Elle va craquer.
Allô Sophie, dis, si tu as reçu mon message après 14h, ah bah écoute, il est toujours pas trop tard, donc rendez-vous 19h au drugstore. Ciao.
Je suis vraiment coincée pour une fois que je sors à une super soirée au café le drugstore. C'est vraiment mal barré, que vont dire les copains? Ce type a tout gâché, y'a plus de rime en un. J'ai envie de le tuer à grands coups de chevrotine ou bien de l'éventrer comme ça dans sa cuisine. Mais c'est quand même bizarre pour une fois qu'on m'invite. Ouf, c'est un coup Bernard et de ses acolytes.
Le dernier message qu'il m'a envoyé, c'est suceur de feu.
Il est bientôt 2h, mais elle ne m'aimera plus. Je vais lui faire mal au cœur, lui dire que j'aime plus. Ses copains sont partis, le café va fermer. Je n'ai qu'une seule envie, c'est d'aller me coucher.
Allô, Sophie, écoute, c'est Gaëtan ici. Écoute, il est 2h du matin, je suis fatigué, j'avais faim. J'ai mangé des pralines, j'avais toujours faim. Je viens de finir les fleurs, écoute... Ça fait dur entre nous, écoute, c'est fini, je sais que ça va être dur pour toi, mais courage, courage, ne pleure pas. Je resterai un ami pour toi si tu veux, c'est fini entre nous. Ciao.
Putain, il est relou.
Souvenir de soirée, t'as écrit bourré.
Et t'aurais pas dû.
Alors Eric, aujourd'hui à La Grange, Eric va nous lire les meilleurs SMS de sa soirée d'hier.
Oh merde.
Allez Eric, go.
Putain, j'ai écrit à une meuf qui m'avait écrit genre il y a 2 mois pour que je lui permette de passer aux vieilles charrues. Je sais pas, un peu bourré, j'avais dû lui faire croire que j'avais beaucoup trop de contacts.
Hier, oui, bah on peut dire que j'ai fondé.
Non mais hier, je me suis enfoncé encore plus. Je dis ouais, j'ai merdu pour les charrues, ils sont overbookés. C'est au trans qu'il faut que vous passiez. On voit ça avec Jean-Louis Brossard l'année prochaine.
Je sais pas qui c'est.
C'est le programmateur des trans. Je le connaissais.
Cool, cool. Donc, si vous écoutez La Grange et que Eric vous fait miroiter des choses, c'est un peu le Harvey Weinstein de lire.
Ah putain. Ah, mais je suis de pire en pire. Ah, c'est chaud.